Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
Introducing first,
Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas.
And now introducing his opponent.
C'est terminé! Victoire de Patrick Côté!
Merci beaucoup tout le monde au Québec!
Salut tout le monde, bienvenue à Dans la cage, édition du 21 juin 2022. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté, en forme?
Très en forme, écoute, avec la carte de fou qu'on a eue en fin de semaine.
Ouais.
C'est sûr que j'étais en forme, j'avais hâte d'en parler.
Ouais, ben c'est clair parce que, ouais, on va revenir là-dessus. Il y a eu énormément de très bons combats, de très gros combats. Puis c'est souvent ça en Pat, c'est vrai. T'sais, on regardait ça la semaine passée, oui, il y avait des bons combats, tu sais. La finale, notamment, c'était un combat important. Il y avait Cerrone, Lauzon. On se disait, OK, ça peut être intéressant, mais finalement, ça n'a même pas eu lieu. Puis à part de ça, pas tant des gros noms. Puis souvent, des cartes qui passent un peu sous le radar. Puis clairement, une des meilleures cartes depuis longtemps, là. En tout cas, depuis de l'année. Ouais.
Exactement. Ouais, je pense que c'est la meilleure carte de l'année qu'on a eue avec 9 finishes en 13. 9 KO en 13 combats. Il y a eu une soumission aussi. Donc, écoute, on ne va pas demander mieux. Puis, tu sais, honnêtement, les deux, ça n'a pas fini. Il y a eu les deux combats de femmes qui auraient pu être le combat de la soirée. Pour vrai, là, il y a juste la finale qui ont été volés ça, mais c'était deux combats vraiment, vraiment spectaculaires aussi.
Exactement. Donc, on revient sur ce gala qui avait lieu à Austin, au Texas. En début d'émission, on va revenir sur le gala de la PFL de vendredi dernier, surtout le combat d'Olivier Aubin-Mercier, qui a réussi à obtenir son billet pour la demi-finale. Donc, première partie de sa mission qui est accomplie pour Olivier, est en éliminatoire du côté de la PFL, toujours en lice pour le million de dollars. On va mettre la table pour le gala de cette fin de semaine, qui m'a pris Arman Saroukan et Mathieu Gamrot, et également l'actualité dans les arts martiaux mixtes à la fin de l'émission. Donc, un beau menu pour vous. Ben, tout seigneur, tout honneur, Calvin Kattar contre Josh Emmett. Josh Emmett qui l'a emporté, la plus grosse victoire de sa carrière, Pat, pour Josh Emmett. Un combat ultra serré, ultra compétitif, qui a été sacré combat de la soirée. On dira pas vol, mais ça aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre, ce duel-là. Hein?
C'est pas un vol, puis honnêtement, je veux dire, pas Emmett, là, mais... Kattar, il y a seulement lui à blâmer pour cette défaite-là. Honnêtement, ça y a pris. Il n'était pas dedans. C'était pas une bonne soirée pour Calvin Kattar. Honnêtement, là, ça y a pris au moins deux rounds pour se mettre dedans. C'est les deux rounds, à mon avis, qui a fait la différence jusqu'à la fin. Je veux dire, même dans son coin, on criait quasiment après de se réveiller. On ne comprenait pas dans son coin non plus, puis nous non plus à la description. Puis c'était vraiment bizarre. C'était pas un Calvin Kattar qu'on était habitué de voir. Je veux dire, on l'a vu bien plus agressif que ça quand il s'est battu contre Chikadze. Mm-hmm. Je pense que Chikadze était vraiment plus dangereux qu'Emmett. Emmett a fait sa job. Et, écoute, ce gars-là a 37 ans. Il ne faut pas passer à côté de cette victoire-là. C'est une occasion comme ça de rentrer dans le top 5 mondial. Ça serait pas représenté pour Josh Emmett. Il a fait le travail. Il a fait ce qu'il avait à faire. Les deux ont fini pas mal maganés. Mais écoute, au bout de la ligne, c'est pas un vol. Je pense que je pense qu'Emmett est allé chercher cette victoire-là et il a cru jusqu'à la fin. Mais Calvin Kattar va regarder ce combat-là et il va s'en vouloir. Il va dire, honnêtement, je l'ai échappé, ça, là, par
après. Ouais, on a eu droit essentiellement à un combat de boxe. Ça s'est passé debout tout du long pendant 25 minutes. Kattar, quand il utilisait son jab, était capable de contrôler l'action, était capable de toucher la cible à répétition, les rounds qu'il a gagnés. Oh, j'avais 3-2 Kattar. Je pense qu'il y en a. Je lui avais donné les rounds 2, 4 et 5. Je pensais qu'il en avait fait assez dans le 5e round, mais comme on dit au début, tellement serré. On regardait les chiffres, là, je ne les ai pas devant moi, mais c'était virtuellement identique là, au niveau des coups tentés, des coups portés, tout ça, qui ont touché la cible. Donc, on ne crie pas au vol, mais perso, en regardant le combat, je l'avais donné à Kattar. Mais faut donner crédit à Emmett qui, comme tu l'as dit, a cru jusqu'au bout. Puis on a amené ça un peu dirty, tu sais. Amener ça un peu, tu sais. Alors que Kattar, lui, était bon quand c'était crisp, quand c'était technique avec son long jab gardé à distance. Mm-hmm. Kattar était capable d'encaisser ça puis d'amener ça un petit peu plus salaud, hein. Je pense que c'est ça qui a fait un peu la différence aussi.
Ben, honnêtement, je l'avais mis dans mes clés de victoire aussi. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. T'sais, techniquement, Kattar est largement supérieur, mais il reste qu'il n'était pas capable de mettre ses coups ensemble. Il n'était pas capable d'y aller avec des combinaisons soutenues. Et c'est ce qui a fait la différence.
Oui, exactement. Donc, ça lui fait une deuxième défaite en trois sorties. Pour Emmett, lui, c'est une cinquième victoire consécutive. Il est passé du septième rang chez les 145 livres au quatrième. Donc, il a volé la position qu'occupait Cater avant le duel. Maintenant, c'est une division très intéressante. La ceinture va être en jeu dans deux semaines, d'ailleurs, entre Max Holloway et Volkanovski. Est-ce que tu penses que Josh Emmett, avec sa victoire de samedi, est le prochain en liste pour potentiellement le gagnant du duel Holloway-Volkanovski 3?
Non.
Je sais pas.
Je pense pas. T'sais, faut pas oublier qu'il va y avoir Yair Rodriguez contre Brian Ortega aussi là, qui vont se battre. Je pense que c'est pas mal plus ceux-là qui vont être le prochain en liste. J'enlève rien à Josh Emmett. Je pense qu'il aurait besoin d'un autre combat, pas tune-up, là, parce qu'on est quand même rendu dans le top 5 mondial, mais un combat éliminatoire, je pense, pour arriver à un combat de championnat du monde. Je pense qu'il sauterait des étapes d'avoir un combat de championnat du monde immédiatement. Tu sais, Calvin Kaler, on pensait qu'il était prêt pour un championship material. Quand il s'est battu contre Max Holloway, l'ancien champion du monde, il s'est fait démonter pas à peu près. Là, fait que, mais c'est sûr que Emmett, lui, pense qu'il mérite un combat de championnat du monde, puis avec raison, puis je fais exactement les mêmes demandes. Mais je sais pas. Je pense qu'on va passer par le gagnant de Brian Ortega puis Yair Rodriguez avance.
Ouais, puis on n'est pas à l'abri d'un. Tout dépend de comment ça va se passer entre Holloway et Volkanovski, bien sûr. C'est sûr que si Holloway gagne, je pense qu'on va faire tout de suite une si c'est compétitif aussi, on devrait faire une revanche Volkanovski. Il a été champion pendant longtemps. Il avait déjà battu deux fois Holloway. Ce serait juste de lui redonner une chance de retrouver sa ceinture relativement rapidement. Si vous nous regardez en vidéo, Pat est gelé en ce moment dans une drôle de face, mon gars. Ça, c'est quand même très bon. Est-ce que tu m'entends?
Je suis
revenu. T'es revenu. T'étais gelé, là? OK, écoutez ça. Ceux qui nous écoutent en vidéo, je vais essayer de vous décrire le visage du freeze de pas de côté. On aurait dit que t'étais sur le bord d'éternuer. T'es pas très abandonné pour toi, mais t'es toujours bon, madame, de toute façon. Ce que je disais, c'est ça. C'est que ça dépend, bien sûr, de comment ça va se passer entre Holloway et Volkanovski le 2 juillet prochain. On n'est pas à l'abri d'un quatrième duel entre ces deux gars-là, dépendamment de comment ça se passe. Ouais. Yair Rodriguez, s'il l'emporte contre contre Brian Ortega, on peut difficilement le placer rapidement en combat de championnat du monde, à moins qu'on fasse un éliminatoire entre Emmett et le gagnant de Ortega.
C'est la même chose pour Ortega. Le gagnant de ce combat-là, moi, je pense que c'est lui le prochain prospect obligatoire. Ouais. Tout dépendamment, c'est ça. Comment ça va? Est-ce que Max Holloway va gagner contre Volkanovski? S'il gagne, là, ça change bien la donne. Là,
c'est ça.
T'as bien raison. Honnêtement, là, de ce que j'ai vu de Volkanovski à son dernier combat, c'était contre Conrad Zombie. Peut-être pas une préparation 100% pour Conrad Zombie parce qu'il a accepté le combat à la place de Max Holloway, mais je dis, Mac, t'es classé quatrième quand même, puis là, il a joué avec, et complètement, là, Mac. Je veux dire, Volkanovski, là, il est rendu dans une classe à part, à mon avis.
Ouais,
là.
C'est vrai,
t'as
raison.
Ça va être vraiment dur de te déplacer de là.
Puis je suis d'accord, tu fais bien de mentionner le dernier combat de Volkanovski, là, tu te rafraîchis la mémoire, mais il avait été tellement dominant, tellement bon. Il va être dur à déloger. Puis, avant de passer au prochain duel de la carte, notre ami Ariel Helwani, le journaliste bien connu, qui a fait une petite remarque sur le classement aussi ce matin, parce que c'est ça, c'est que Josh Emmett est passé de 7e à 4e. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont reculé, qui n'étaient même pas en action, puis qui ont reculé, notamment Arnold Allen, qui est sur une séquence incroyable de victoires à 145 livres. L'anglais Allen, qui est vraiment, vraiment, vraiment solide. Puis Ariel, il disait, tu sais, c'est la preuve que ces classements-là, ça vaut ce que ça vaut. En fait, ça vaut pas grand-chose selon lui, parce que le gars a même pas été en action. C'est lui qui a la plus longue séquence de victoires ou à peu près dans la division, puis il recule d'un rang. Puis on le met même pas dans conversation présentement, ce qui, selon lui, fait aucun sens. J'ai pas le choix d'être vraiment en accord avec lui, là, en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit et avec ce qu'il a dit aussi. Les classements, des fois, il faut t'en prendre, il faut t'en laisse. Il reste que Emmett a quand même battu le quatrième. Donc, il n'y a pas le choix. Il était septième, il n'a pas le choix de le faire monter. Là. Souvent, ils vont changer de place. Là. C'est sûr que là, il a monté. Mais Écoute, c'est ça, tu sais, Harlan, ça va être à lui de prendre sa pilule, c'est plate, mais c'est comme ça que ça marche, tu sais, puis, tu sais, de continuer sa séquence, puis, tu sais, courir après des combats importants, des combats avec un plus gros nom. Je comprends qu'il est là, il est à la porte du top 5 mondial. Là, ça y prend un nom, ça y prend un gros nom, puis ça y prend une grosse performance.
Exactement. En demi-finale, ça devait être Cerrone-Lauzon. Finalement, là, j'ai pas suivi... J'ai pas suivi toute l'actualité, mais il se serait blessé à un genou, une blessure assez spéciale. Tu as les détails? Joe Lauzon?
C'est arrivé, oui, exact. Voilà un mois, ce combat était supposé arriver. Mm-hmm. La journée du combat, Cerrone n'a pas pu se battre. Il y a eu un empoisonnement alimentaire, de ce qu'on nous a dit. Il faut dire que c'était son retour à 155 livres aussi. Donc, on ne sait pas là, si c'est à cause de la coupe de poule. Comme... Là, on arrive samedi. La pesée a été faite vendredi. Là, après, il y a des rumeurs que Joe avait des crampes. C'est pour ça qu'il ne s'était pas présenté à la série, la pesée cérémoniale.
Voilà. Il était là celle du matin officielle. Il a fait le poids. Puis après, devant les journalistes, devant les caméras, devant le public, le soir, il ne s'est pas présenté. Voilà.
Mais ce qui est arrivé, apparemment, c'est qu'après qu'il s'est descendu de la balance, il s'est assis pour mettre ses bas. Et son genou, il a complètement jamé. Il n'a pas été capable de se déplier le genou. Il n'était plus capable de marcher. Il ne sait pas ce qui est arrivé. Il dit c'est l'affaire la plus weird que j'ai jamais vue de toute ma vie. Il s'est blessé en mettant ses bas. Je ne sais pas. Fait que là, le combat a été annulé. Fait que là, on dit OK, bon, ben, on va être encore obligé de le rebooker. Dana White a dit non, je ne rebookerai plus ce combat-là. Et je ne veux pas que ça devienne une curse comme Habib et Tony Ferguson. Et de toute façon, c'est Ronnie, c'était son retour encore une fois à 155 livres. Il a coupé deux fois beaucoup de poids en un mois. Il a dit, regarde, il dit, moi, je veux pas recouper du poids autant de poids dans un mois. Il dit, fait que là, il va s'en battre plus tard. C'était peut-être le combat d'adieu pour les deux. Tu sais, on sait
ouais,
pour Lauzon, on sait que ça l'était. Pour Cyril Ronin, il n'a pas gagné à ses 6 derniers combats. Son dernier victoire remonte en 2018. Le dernier combat de Joe Lauzon Ramon en 2018. En plus, ça faisait un mouchoir. Okay. Méchant vague, c'était pas battu aussi. Fait que, tu sais, il fallait pas s'attendre à un grand combat. Tu sais, je veux dire, c'est deux, à mon avis, c'est deux légendes. OK, il y en a rien qu'un qui est vraiment une grande, grande légende dans cette journée. Mais je veux dire, ces deux gars-là ensemble ont 33 bonnets de performance. C'est incroyable. Tu sais, Joe Lauzon, il a fait des guerres mémorables. Il sera jamais autant de renommée. Mais pour moi, il fait partie des pionniers de ce sport-là qui a amené le sport à un autre niveau. On n'en parle peut-être pas assez souvent, c'est sûr, là, ça faisait 2 ans que c'était pas battu, mais il reste que Joe Lauzon, tu le mets dans un combat, tu sais que tu vas avoir de l'action, tu sais que tu vas avoir du fun à regarder le combat.
C'est des OG, comme on dit dans le jargon.
OG!
Ça n'a pas eu lieu, mais comme on le disait, on a eu quand même droit à une belle demi-finale, une belle carte au complet, mais une belle demi-finale avec Kevin Harlan qui a poursuivi, lui, sa domination ou sa belle séquence, en fait, à 170 livres. C'est son deuxième combat dans la catégorie inférieure. On sait qu'il se battait à 185 avant. Et là, il est venu à bout de Tim Means. Mais superbe combat de sa part. Un premier round dominant. Il était vraiment bon en striking. Ses coups touchaient la cible. Il était précis. Il utilisait bien ses longs bras. Puis Tim Means, on sait que c'est un gars qui avance toujours. C'est un gars qui n'a pas froid aux yeux. Harland a bien géré ça. Puis il a fini ça avec un étranglement d'Ars au deuxième round. Harland, à prendre au sérieux à 170, Pat?
Je pense qu'il a trouvé sa niche. Là, je pense aussi qu'il a réalisé que c'était qu'il avait du talent. Puis que il n'avait pas besoin de faire un clown pour que le monde s'intéresse à lui. T'sais, dans les derniers combats, les premiers combats qu'il a faits, à un moment donné, c'était désagréable de le voir parce qu'il
faisait juste parler. Puis, ouais.
Il parlait au monde à l'extérieur de la cage aussi. Il n'avait pas l'air à prendre ça au sérieux. Puis là, ben là, tu regardes, depuis qu'il est plus calme, il est plus posé, il est plus concentré dans le combat, il va toujours rester Kevin Harlan, il va toujours vouloir donner un peu du spectacle. Il a parlé un petit peu avec Tim Means qui avait commencé à parler un peu, mais tu sais, quand tu vois que ce gars-là, il se met au sérieux, au travail, il est dangereux, mais je pense qu'à 170 livres, c'est un gars qui peut faire beaucoup de dommages. C'est un grand bonhomme, 6 pieds 3, 170 livres. Oui, il reste plus grand en chair, ça a assez de peau, ça a peau, là, 170 livres, à 66 pieds 3, mais regarde, tu vois qu'il est très, très bon, là, puis il est là pour une raison, puis quand il prend le combat sérieusement, puis qu'il décide d'arrêter de faire le clown, il est bon.
À la patte côté, là, qui tente de relancer sa carrière à 170 livres après avoir été à 185 livres relativement longtemps. Donc, c'est bon, il a suivi un bon modèle. Adrian Yanez contre Tony Kelly. Ça, c'est un autre duel dont je voulais parler un petit peu plus en détail parce que c'est une victoire très importante pour Yanez, surtout de la façon dont il a gagné. Pas un gros nom, Adrian Yanez, mais là, tu regardes sa séquence de victoire, c'est sa 9e consécutive, sa 5e à l'UFC, dont son 4e KO. Le finisher au premier round a été ultra spectaculaire. Faut dire que l'animosité entre les deux a aidé à rendre ça, à ajouter une petite coche au combat. Mais Adrian Yanez aussi, c'est un nom pour les amateurs qui doivent surveiller. Hein?
Absolument. Tu l'as dit, là, c'est, au niveau des statistiques, là, il est sur toute une séquence, invaincu à l'UFC. Il a bien géré ses émotions aussi. Ça avait brassé un peu à la pesée. Kelly qui avait dit des choses dans le coin d'Andrea Lee quand elle se battait, des choses un peu racistes. Puis il y en a qui l'ont pris de cette manière-là. Il y en a qui ont dit, oh, non, c'est pas si pire que ça, c'était pour motiver sa combattante. Mais il reste que si tu prenais au pied de la lettre, c'est sûr que c'était. Tu disais que tous les Brésiliens, c'était des tricheurs, des lâches, puis que c'est ouais. pour ça qu'ils trichaient. C'est sûr que c'est un peu hard. Puis, tu sais, je dis, Kelly, si. Moi, j'ai bien dans la misère avec. OK, si c'est vraiment pas ça que tu as dit, puis que tu t'es fait mal comprendre, tu rentres pas dans un combat et t'envoies pas chier à tout le monde. Moi, j'ai juste ça, là, tu sais, maintenant, il fait toute son entrée, il envoie des fingers à tout le monde, il rentre dans le combat, il envoie des fingers à tout le monde. Tu sais, je veux dire, tu viens comme de lui donner une raison. Tu sais, en tout cas, je trouvais ça assez ordinaire, puis jusqu'à un certain point, je veux pas de mal à personne, mais je suis content qu'il ait perdu, là, juste à cause de cette attitude de merde-là. Honnêtement, le sport est rendu à un autre niveau aussi. Là. T'es un athlète professionnel, tu passes à la TV, le monde te regarde, tu veux donner un modèle. Pas nécessairement tout le monde veut donner un modèle, mais je veux dire, ce sport-là est encore très difficile à vendre. Puis t'as encore des cabochons qui font des affaires de même. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis, je voulais pas qu'il se fasse faire mal, mais je suis pas déçu. Vraiment pas qu'il ait perdu. Puis, il avait pas fait le poids en plus.
Il n'avait pas fait le poids en plus, okay, c'est ça. Il partait déjà avec. Parce que la foule était clairement du côté d'Adrian Yanez, même. Lui, il était dans son état natal. Ou en tout cas, je pense que c'est un gars qui venait du Texas, donc la foule était déjà du côté de Yanez. Là, ajouté à ça le fait que les gens n'aimaient pas trop Tony Kelly. C'est ça. On en rajoutait une coche. Avec tout ça, ben, Adrian Yanez a fait son entrée, lui, dans le top 15 à 135 livres, donc chez les poids coqs de l'UFC. On va passer rapidement sur les autres finishes parce que c'est ça. D'abord, qu'est-ce que tu penses du fait que on a donné 11 bonnies de performance samedi dernier? Un à Cater, un à Ahmed pour leur combat de la soirée, le combat final. Et sinon, les 9 autres gagnants qui l'ont emporté avant la limite ont aussi reçu un bonus de performance. C'est la preuve que l'UFC, ils peuvent en donner. Des fois, ils en donnent juste un ou deux ou trois par gala. Là, ils en ont donné 11 au total des bonus de performance.
Ben, la semaine passée aussi, ils en ont donné à tout le monde qui avait fini le combat. Ils en ont donné 9, je pense, la semaine passée. C'est correct, tu veux dire, ils donnent des bonus de performance pour motiver les combattants à aller pour le finish puis donner un spectacle. Mais, tu sais, je veux dire, les gars, les filles ont fait la bonne chose la semaine passée aussi. Puis l'UFC, là, ils ont déplié de l'argent. Puis, c'est comme ça. Puis, tu sais, veux pas, à un moment donné, ils n'auront pas le choix aussi. T'sais. Depuis des années, mais encore plus aujourd'hui, le tabou et les salaires des combattants, qui n'ont pas de maudit bon sens. Là, tu leur donnes. Il y a du monde qui mérite d'avoir des performances de soirée. Il n'y en a pas parce qu'ils limitent ça à 4. T'sais, à un moment donné, là, je veux dire, la compagnie vaut 11 milliards. Je pense que tu es capable de donner 50 000 de plus à quelque part.
Je trouve ça dommage. Puis, je vais faire mon pro-québécois, là, mais tu sais, je trouve ça dommage. C'est arrivé à quelques reprises à Charles Jourdain et à Marc-André Barriot où il y aurait potentiellement pu y avoir des bonnies de la soirée. Ils ont été dans des guerres où ils ont fini ça avant la fin. On dit, OK, peut-être que ça va être suffisant pour un bonnie de la soirée. Puis finalement, ils n'en ont pas eu parce qu'on avait limité le nombre. T'sais, s'il y avait été sur des cartes où les dirigeants se sentaient un peu plus généreux cette soirée-là, il aurait peut-être pu avoir quelques bonnies en banque de plus. Mais regarde, peut-être que les choses vont être appelées à changer. Ça fait 2 semaines de suite. Peut-être que ça va être encore ça va devenir plus la norme, en fait, d'en donner plus que moins au cours des prochains mois. Ouais. Joachim Buckley contre Albert Duraev. L'œil fermé complètement du Russe. Buckley, lui, 5 victoires, une défaite à ses 6 derniers combats. Il a dominé au niveau du striking. Puis c'est un gros bonhomme, Buckley. Là, c'est tout un athlète aussi.
Ouais, mais Duraev, c'est comme entêté à vouloir se battre debout. Tu sais, le gars, c'est un excellent lutteur. Jamais, je pense, une fois essayé, mais il était trop tard. Tu sais, un coup qu'il voyait plus rien d'un œil, il a essayé de shooter. Il shootait beaucoup trop loin. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais Buckley, moi je l'aime bien. C'est un gars qui est super agile. Il peut nous sortir des affaires qui sortent d'ordinaire. On l'a déjà vu par le passé. Il a essayé une couple d'affaires samedi. Mais je veux dire, il est bien posé. Puis encore une fois, il termine le combat avant la limite. T'sais, c'est un gars qu'on va commencer à parler là, de plus en plus dans un futur approché.
Grégory Rodriguez, le Brésilien, a battu Julian Marquez au premier round. Ça se passe aussi à 185 livres. Jeremiah Wells, on parlait de Kevin Harlan, a surveillé à 170 livres. Wells, avec son KO de Court McGee au premier round aussi, sa grosse main gauche, lui aussi, là, c'est un relativement nouveau venu à l'UFC, non à surveiller.
Ouais, puis tu sais, c'est un gars qui est. Court McGee, on sait que c'est un gars qui est durable, c'est un vétéran. Puis Marquez aussi, tu disais, Marquez s'était jamais fait arrêter avant la limite.
Non plus.
Première fois qu'il se fait passer de knockout. Tu sais, cette carte-là a été complètement folle du début à la fin. Puis, tu sais, il y a du monde qui ont émergé de cette carte-là aussi. Il y a du monde qui ne connaissait pas c'était qui ont été faire des surprises aussi avec Court McGee, avec Marquez aussi. Fait que, tu sais, on veut ça. Tu sais, puis souvent, tu sais, on regardait la carte sur papier, t'es là. OK, sauf que ça arrive tellement souvent que il n'y a pas beaucoup de vedettes sur une carte, mais c'est là que c'est le temps de shiner parce que tu te feras pas over. Comment je peux dire ça? Tu ne te feras pas.
Tu feras pas voler la vedette par des.
Voler la vedette ou la lumière exactement par des gros noms. Fait que c'est parfait pour les gars. Ça.
Un des KO de l'année, ou en tout cas un des beaux KO qu'on a vu dernièrement, Ricardo Ramos contre Danny Chavez, un coup de coude renversé. Ça, c'est un copier-coller de ce qu'il avait fait à Emmons Abbey en 2017 au Madison Square Garden.
Ouais, exact. Écoute, ça ressemble. Là. On était plus dans le clinch là, avec Zabi, mais c'est la même chose. Un coup de coude renversé. Tellement confiance en ce coup-là, honnêtement. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais honnêtement, lui, il se place. C'est sûr que, tu sais, il y en a encore de Chandler contre Ferguson qui va être dur à battre cette année. Là. Mais il reste que ce KO-là va être dans le top 3. C'est minimum dans le top 5, là, mais je pense que c'est un KO dans le top 3 de l'année. Ça, c'est sûr.
Cody Stamann avait besoin d'une victoire contre Eddie Wineland. Il l'a eu en moins d'une minute. Et Eddie Wineland, le vétéran qui a accroché ses gants également. C'était la chose à faire, là, je pense. Je regarde ça, 3 défaites de suite. 5 défaites à ses 6 derniers combats. Il se battait pratiquement jamais non plus, Eddie Wineland. Quand même,
ouais, c'est ça.
Un gars qui a roulé sa bosse pendant longtemps, qui a été champion de WEC.
Le premier champion des poids coques. Des poids plumes ou coques. Je me souviens plus.
Il se battait chez les coques, premier... en tout cas, à 135 livres.
C'est ça, poids coques. Fait que le premier champion des poids coques de WEC de l'histoire. Le gars, il a du millage. C'est un gars qui était une valeur sûre aussi. 3 défaites de suite. Écoute, c'est pas un gars qui va aller au temple de la renommée, là, mais reste que moi, quand j'ai préparé le show, j'ai vu Eddie Wineland, je me souvenais même pas qu'il se battait encore, mais depuis 2016, il s'est battu une fois par année, fait qu'il n'a pas été super actif non plus.
C'est ça, exact. Donc, Cody Stamann a probablement sauvé son emploi. Phil Haas est allé d'une superbe performance, une clinique de striking contre Deron Wynn. C'était vraiment beau à voir. Roman Dolidze, gros coup de genou dans le clinch contre Kyle Daukaus. Autre KO au premier round. Dans les combats qui sont allés à la décision, il y a Damir Ismagulov qui a battu Gouram Koutateladze. Ismagulov, 19e victoire de suite dans la division des 155 livres. Un autre gars dont il faut retenir le nom. Et on a découvert une fille qui s'appelle Natalia Silva. Pat, ça c'était tout un combat contre la Canadienne Jazz Devichis. Je vous écoutais, toi et Jean-Paul, vous étiez vraiment impressionnés par ce qu'elle était capable d'apporter dans l'octogone. Hein?
Incroyable. Quelle addition à cette catégorie de poids, les 125 livres. Je veux dire, elle est solide. En plus, c'est une spécialiste de sol. On ne l'a pas valé au sol. Au bout du combat, debout, là, agile, rapide, ça sort des deux mains. Écoute, moi, ce que j'ai vu là, c'est tout un début. Là, puis honnêtement, là, c'est... Ça m'a vraiment impressionné de la voir aller. La Canadienne, pas assez rapide, pas assez de...
Pas assez forte.
Pas assez de fighting IQ dans ce combat-là. Elle n'a pas été capable de changer, elle n'a pas été capable de changer le rythme. Elle s'est frustrée parce qu'elle ne touchait pas la cible, puis elle se faisait toucher. Plus elle s'est frustrée, plus qu'elle se frustrait, plus qu'elle loadait ses shots, plus qu'elle venait lente. Je veux dire, c'est un combat parfait là, pour la Brésilienne. Moi, je suis Vraiment, là, elle m'a jeté à terre. Sérieusement, là, j'étais vraiment impressionné.
Ah, elle jouait avec Jazz DeVicious, puis il y a des fois, elle la prenait au corps à corps, elle la brassait comme une poupée de chiffon, en tout cas. Ouais. Donc, Natalia Silva donne une grosse victoire contre Jasmine Jazz DeVicious. Elle n'a pas réussi à terminer ça avant la limite, mais c'était une domination totale. OK, tu as eu la chance de regarder PFL, Pat, combat d'Olivier Aubin-Mercier?
J'ai regardé le combat d'Olivier, oui.
Victoire d'Olivier Aubin-Mercier, donc je le disais d'entrée de jeu, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la PFL, une victoire par décision unanime contre le champion en titre, Haush Manfio. Pas un grand combat, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas eu la chance de le regarder sur les ondes de RDS, c'est un combat calculé. Et je pense, je ne sais pas comment tu as perçu ça, Pat, mais je pense que c'était ça la stratégie d'Olivier. Parce qu'il m'en avait déjà parlé aussi dans l'entrevue avant. Il disait, dans le format de PFL, tu sais que tu te bats à tous les deux mois. Il faut que tu gagnes, mais il faut que tu restes en santé aussi pour te rendre jusqu'au bout et aller gagner le million. Je pense que le but, c'était de aussi rester en santé puis de pas trop engager avec Haush Manfio, qui, on le connaît, est un contre-attaquant. Donc, en faire juste assez, bref, pour aller chercher la victoire.
Je pense aussi que le but, c'est de se qualifier pour les playoffs. C'était ça le but ultime. Le but, c'était pas d'aller donner un spectacle. Le but, c'était d'aller chercher la victoire pour se qualifier pour les playoffs. Mais après ça, tu sais, on verra ce qui va arriver. Mais tu sais, que ça soit plate, que ça soit le fun, tu regardes ce qu'il a fait dans ses deux derniers combats. Il a quand même battu les deux derniers champions là, de PFL. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Puis on l'a testé. Puis, tu sais, à un moment donné, je me demandais quasiment, hey, on y en veut-tu? On y en veut-tu un Olivier? On lui donne les deux champions. Il a passé à travers. Puis, mais regarde, s'il a fait ce qu'il avait à faire, est-ce que c'était un grand combat? Non. Est-ce que le monde s'est arrivé pendant le combat? Oui. Il a-tu gagné? Oui. Il est dans les playoffs. C'était ça le but ultime. Tu sais, là, il va dire, ouais, mais s'il n'était pas québécois, tu cracherais-tu? Je crache jamais sur personne. Quand c'est plate, on va te dire que c'est plate. Oui, c'était plate le combat. Mais c'était quoi le but? C'est de rentrer dans les playoffs, puis ça, c'est fait. That's it.
Ben, même Olivier l'a dit à la fin. Je veux dire, il l'a dit à Sean O'Connell, qui est Sean O'Donnell plutôt, qui est l'analyste ou le descripteur qui fait des entrevues aussi. Il a dit, c'était un de mes combats les plus plates. Mais voilà, il a dit le Canadian Gangster fait ce qu'il veut. Comme tu as dit, c'est ça, il savait, le classement était tellement serré, il y avait congestion à 3 points, il savait que s'il allait chercher juste 3 points, il n'y avait pas besoin des points bonis. C'était différent chez les mi-lourds. Il y avait les légers, les 155 livres, puis les mi-lourds, vendredi dernier. Chez les mi-lourds, là, tu avais besoin, il y avait plusieurs gars qui avaient besoin d'aller chercher un finish avant la fin, d'aller chercher les points bonis. Parce que le classement après la première portion était fait comme ça. Chez les légers, il y avait Anthony Pettis qui avait 6 points, puis tout le reste était à 3 points. Ça avait tout été des victoires par décision. Donc, il était intelligent. Il savait qu'il n'y avait pas besoin d'un finish, qu'il avait juste besoin d'aller chercher une victoire par décision. Donc, pas pris trop de risques. Je m'attendais à ce qu'il lutte. Il n'a jamais essayé d'initier la lutte. Il a un peu lutté contre la cage, mais il n'a jamais vraiment tenté d'amener le combat au sol. Il s'est contenté vraiment de rester à distance, d'empêcher Manfio de le toucher. Manfio ne lançait pas grand-chose non plus. Hein, fait que, tu sais, il faut être deux pour danser.
Il avait peur. Il avait peur justement de se faire amener au sol. Moi aussi, j'avais comme l'impression que il aurait rentré dedans, puis il aurait travaillé contre le grillage, contre la cage, puis d'essayer de l'amener au sol. Moi, je m'attendais à ça. Honnêtement, je m'attendais zéro à cette stratégie-là, à ce genre de combat-là de la part d'Olivier. Mais écoute, ça a marché, il a gagné, puis t'as raison, ça prend deux pour danser. L'autre en avant n'était pas plus actif, l'autre en avant, il n'en a pas fait plus qu'il faut. Fait que, tu sais, je veux dire, quand les deux sont sur le même mode ou le même beat, ça arrive que ça fait juste ce genre de combat-là.
Et quand il y a eu et les échanges qu'il y a eu, c'était clairement à l'avantage d'Olivier. Le troisième round était probablement le plus serré, alors que Manfio savait qu'il était en retard. Mais quand Manfio lançait un petit peu plus, là, c'est là qu'Olivier a réussi à amener ça au corps à corps, à lutter contre la cage. Moi, je lui ai donné personnellement les trois rounds. Deux juges ont donné 30-27 à Olivier, un juge 29-28 à Olivier. C'était une décision unanime. Bref, belle performance de sa part. Là, on sait qu'il va affronter Alexander Martinez, qui est un autre Canadien, Pat. Un gars de Calgary, représente le Paraguay. Il est né au Paraguay, mais est au Canada depuis qu'il a l'âge de 14 ans. Je ne sais pas à quel point Olivier le connaît, mais lui est allé causer une certaine surprise en battant Clay Collard, qui a été demi-finaliste l'an dernier, qui est un excellent boxeur. Ça, c'est un petit peu plus controversé comme décision. Plusieurs personnes, je lisais sur les médias sociaux, qui trouvaient que Collard en avait fait assez. Mais il a fait trop d'erreurs, Collard. Je sais pas si tu as vu le combat, mais clairement, lui, c'est un boxeur. Là, je veux dire, c'est probablement le meilleur boxeur de la division à PFL. Puis, c'est entêté d'aller, lorsque ça allait au sol, d'essayer d'échanger des fois avec Martinez, qui a un bon jeu au sol. Martinez est plus du style taekwondo aussi. Si Collard, un peu à la Calvin Kattar, si Collard s'était contenté de... en fait, Collard aurait dû faire ce qu'Olivier a fait. Et c'est ça qui est venu un peu l'hanter. Il a tenté de trop donner en spectacle, il a tenté de trop d'échanger, trop d'initier, puis ça lui a joué des tours. Ce qui fait que c'est Martinez qui se retrouve en demi-finale contre Olivier Aubin-Mercier. Il va rester une place. Il y a Anthony Pettis qui est déjà aussi qualifié. Il va se battre, lui, ce vendredi contre Stevie Ray. Puis Stevie Ray, s'il réussit à finir ça avant le troisième round, donc en deux rounds et moins, va aller déloger, lui, Roush Manfio pour la dernière place disponible. Donc, ça va se terminer. Ça va se terminer, donc le tableau va être complété chez les légers ce vendredi. Et ce vendredi, on vous présente également le gala de la PFL à RDS 2, donc à 21h. Donc vendredi, PFL. Samedi, Pat, tu vas être en onde avec Jean-Paul pour l'UFC de cette fin de semaine. Ouais. On retourne à l'Apex. Là, écoutez-nous bien. Arman Tsaroukian contre Mateusz Gamrot. Voici votre finale du gala de ce soir, de samedi soir. Les gens qui nous suivent et qui regardent l'UFC, qui suivent vraiment ça de semaine en semaine, connaissent ces deux gars-là, savent que ce sont d'excellents combattants, des prospects, on va dire ça comme ça, de très bons espoirs à 155 livres. En tant que businessman, si je te mets dans les souliers d'un promoteur, Pat, est-ce que tu trouves que c'est un bon main event pour un gala? Deux noms qui sont pas très connus, on va se dire.
Non, mais c'est pour ça qu'on retourne à l'Apex aussi, puis qu'on met pas ça sur la pay-per-view, mais c'est pas une grande finale, on va se dire, là, c'est au niveau des... Puis c'est pas pour dénigrer les deux combattants, ils sont excellents, puis tu l'as dit, c'est deux prospects à en devenir, c'est deux probablement le futur top 3, top 5 mondial, honnêtement. Là. Ils sont vraiment, vraiment très, très bons. Mais, tu sais, il faut que tu sois capable de vendre ton show aussi. Est-ce que c'est une finale qui va... vendre? Est-ce que c'est une finale qui va intéresser beaucoup de monde? Si tu dis juste ces deux noms-là, je pense pas. Fait que, c'est sûr qu'on a vu ça en premier, on a dit « OK, la finale va arriver bientôt, ils vont sortir quelque chose. » Mais non, c'était ça la finale. Good. It is what it is. Regarde, on l'a vu là, en fin de semaine, la carte sur papier était assez ordinaire sur papier, puis ça a donné un des meilleurs shows de l'année. Exact. Sinon le meilleur. On peut jamais, tu sais, c'est tout le temps la même affaire, hein, tu peux être 1 million contre 1 sur papier, quand la cloche sonne, c'est là que ça se passe, puis c'est là que ça peut devenir intéressant.
Exact, puis je pense qu'on a essayé pendant longtemps, jusqu'à toute dernière minute, là, de trouver une finale, de placer des noms un peu plus connus en finale, en sachant que les deux gars, Gamrot et Tsaroukian, ça allait faire une excellente demi-finale. Puis finalement, j'imagine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a peut-être pas réussi on n'a clairement pas réussi à trouver d'autres noms. On a pris le pari de mettre ces deux gars-là en finale. De se dire, puis je veux dire, là, ça va être notre job un peu de vous inviter à syntoniser à RDS 2 samedi soir, parce que on veut que vous regardiez ça à RDS. Puis on vous le dit, là, on va en parler. Tsaroukian, Gamrot, ça va être du haut niveau d'arts martiaux mixtes. Tsaroukian, on le connaît. Moi, je le connais un petit peu plus. Je veux dire, il a affronté Olivier Aubin-Mercier. Il est 18 victoires, 2 défaites. Il est sur 5 victoires consécutives. La dernière fois qu'on l'a vu, on était ensemble. Pat, on décrivait son combat contre Joel Alvarez. C'était un peu la même chose. On se disait, ah, c'est un combat de prospect. Alvarez aussi est sur toute une séquence. Tsaroukian l'a mangé tout rond. Je veux dire, il est bon dans toutes les facettes du jeu. Puis au sol, en ground and pound, tu ne veux pas te retrouver en dessous de ce gars-là.
Non, il est très, très bon. Puis même au niveau du combat debout, avec la lutte, c'est un gars qui est super complet. Moi, j'aimais beaucoup Tsaroukian. Il est arrivé un peu de nulle part. Puis tout de suite, quand il est arrivé, il a fait vraiment... il a fait des victoires d'être là. Puis il est dur à combattre parce qu'il est très imprévisible. Mais il n'est pas imprévisible dans... Comment je peux dire ça? Il est imprévisible dans ses skills à lui. Il est imprévisible dans ses talents. Parce qu'il peut amener le combat où ce qu'il veut, puis il va être bon un petit peu partout. Fait que c'est ça qui est difficile quand tu te bats contre Tsaroukian.
C'est ça, exact. Sa seule défaite, c'est contre, là son nom m'échappe, mais c'est contre le protégé de Habib Nurmagomedov.
Mahachev.
Islam Mahachev, merci Pat. Donc, c'est sa seule défaite à l'UFC à Arman Tsaroukian. Kamrad, je le connais un petit peu moins. Je sais qu'il a perdu contre un gars qu'on avait. Il a perdu à ses débuts à l'UFC, en fait, contre Kuta Teladze, qu'on a vu cette fin de semaine, qui a perdu lui aussi, contre Ismagulov. Mais depuis ce temps-là, c'est. Il a fait son entrée dans le top 15, les 12e. Tsaroukian est 11e, Gamrot est 12e, en vertu de trois victoires consécutives avant la limite. Il a une fiche de 20 et 1, avec 7 KO et 5 soumissions. Lui aussi, un combattant, en tout cas sur papier, qui est très complet. Et deux gars qui ont des fiches vraiment, vraiment similaires.
Ouais, puis tu sais, Gamrot, il a échoué à ses débuts dans le centre de l'UFC, mais. Tu sais, c'est pas. C'est là que moi, je trouve que c'est là que tu vois, c'est quoi un championship material. Tu sais, quand tu as des épreuves, tu rebondis tout de suite avec des performances, tu te laisses pas écraser justement par des défaites ou des mauvaises performances. Il est revenu avec trois victoires de suite éclatantes. Donc, tu sais, ça pour moi, ça démontre que c'est un gars qui a une bonne tête, qui est résilient, puis qui va être toujours être difficile à battre.
Exact. Donc là, on sépare les hommes des enfants, si vous me permettez l'expression, qui. Ces deux gars-là vont rentrer dans le top 10, dans la très relevée division des 155 livres. Ça va se décider en fin de semaine entre Arman Tsaroukian et Mateusz Gamrot. J'ai également très hâte à la demi-finale, Pat. Shavkat Rakhmonov, un autre gars qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps. On avait fait un de ses gars-là l'hiver dernier, son dernier combat, en fait. Quel athlète, quel combattant incroyable, le Kazakh. Il est 15-0, Shavkat Rakhmonov. Il est dans le top 15 à 170 livres. Et là, ben, on lui donne finalement un vrai test en Neil Magny.
Mm-hmm. Ouais.
Je favorise Rakhmonov, mais Magny, parce que Magny, il est là depuis longtemps, jamais vraiment spectaculaire. Je me dis, ah, il doit être coup-ci, coup-ça. Il est sur une bonne séquence, le Magny aussi. Donc, je veux dire, ça promet d'être, ça devrait être assez, assez relevé. Mais Rakhmonov qui nous avait impressionnés, là, wow!
Rakhmonov, c'est un coq solide, c'est un combattant qui est solide sur ses pieds aussi. Écoute, il a une confiance vraiment dans le plafond là, présentement, il est invaincu. Mais c'est vrai, t'as raison. On lui donne un vrai test, là, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Neil Magny a tellement d'expérience, il s'est battu contre les meilleurs. Je veux dire, c'est un gars qui est bien crafty aussi. T'sais, c'est un gars qui est grand, il a une belle allonge. Il a une lutte très sous-estimée aussi, au corps à corps. Il est très bon au niveau de la lutte de Magny. Là, il est très sous-estimé au niveau de cette facette-là. C'est un gars qui boxe bien, qui boxe en ligne droite aussi. Pour Rakhmonov, il va falloir qu'il trouve une façon de rentrer à l'intérieur, parce que sinon, il va être loin du profit.
Je lève mon chapeau à Magny d'avoir accepté le défi Rakhmonov. Oui. Ça ne sera pas facile pour lui. Ça pourrait lui coûter cher. Là, je veux dire, il est dans le top 10. Ça pourrait lui coûter sa place dans le top 10 s'il devait perdre en fin de semaine. Mais c'est ça. Shavkat Rakhmonov, il est 15-0. Ses 15 victoires ont été acquises avant la limite. Il a 8 KO et 7 soumissions. Peu importe où va aller le combat, il est capable d'en finir, de finir ça avant la limite. Donc, à surveiller en demi-finale. Les deux autres combats que j'ai encerclés sur la carte en fin de semaine, Umar Nurmagomedov, le cousin de l'autre, contre Nate Maness, un gars qui est 14-0. Nurmagomedov contre Maness qui est 14-1. Un combat à 135 livres. Donc, un duel de style aussi, hein, le lutteur contre le striker, le combattant debout. Est-ce que tu as une opinion sur comment ça peut se passer? Puis est-ce que toi aussi tu avais en fait encerclé ce combat-là quand tu regardais?
Ah, ben oui. T'sais, c'est deux, encore une fois, c'est deux prospects, c'est deux combattants qui sont très, très solides. Nurmagomedov, il y a. Moi, je peux dire ça. Tu sais, il y a une autre famille dure à porter sur ses épaules. Ouais. C'est sûr qu'il va toujours avoir la comparaison. Après ça, là, ça reste à lui, c'est à lui à faire la part des choses. C'est un excellent lutteur aussi, c'est un très bon athlète. Donc, on va voir, je pense que Magnus est un meilleur striker. Il va falloir qu'il fasse attention là-dessus. Mais bon, regarde, moi aussi, j'avais hâte de voir ça.
Puis, Chris Curtis contre Rodolfo Vieira. Curtis, qui est vraiment une belle histoire, Pat. C'est un gars, un vétéran, il a 34 maintenant, mais il est rentré à l'UFC après son 34e combat pro. Donc, ça a pris vraiment longtemps là, avant qu'il ait la chance de combattre pour la grande organisation. Et il a saisi sa chance parce qu'il était allé avec deux grosses victoires depuis ses débuts avec l'organisation. Il est revenu de l'arrière dans certains combats, un favori de la foule. Et là, on lui donne un défi. On lui donne un gars Je ne sais pas comment il se débrouille au sol. On l'a surtout vu debout, Curtis, mais champion de Jiu-Jitsu, Rodolfo Vieira. Donc, en tout cas, ça aussi, ça va être un jeu d'échecs et un choc de style. Vieira a beaucoup moins d'expérience en combat d'arts martiaux mix, mais sauf erreur, il a énormément d'expérience en grappling et en Jiu-Jitsu.
Ah, il est très, très champion du monde en BJJ. Au sol, il y a un jiu-jitsu vraiment agressif. C'est pas un gars qui est là pour acheter du temps, pour prendre des positions. Il va pour le finish. C'est un jiu-jitsu qui est spectaculaire. Moi, j'adore Vieira quand il travaille au sol.
Donc, vos rendez-vous en martiaux mixtes cette semaine sur les zones de RDS 2. Vendredi, PFL à 21h, je serai en compagnie de Valérie Letourneau. Et samedi, Pat et Jean-Paul seront en onde à 20h samedi pour la carte complète de cette UFC qui sera présentée à l'Apex de Las Vegas. On va prendre 5 minutes pour faire le tour des nouvelles. Il n'y a pas, pas grand-chose, pas vrai. Il y a quand même des choses relativement intéressantes, mais on ne sait pas vraiment si c'est des rumeurs, des nouvelles, ou en tout cas. Nate Diaz, je ne sais pas si tu as vu son tweet ce matin, il a dit à l'UFC, « Donnez-moi un combat d'ici 2 mois, d'ici juillet ou août. Sinon, libérez-moi, j'ai d'autres choses à faire. » En mettant une séquence de Jake Paul qui passe le KO à Tyron Woodley. Est-ce qu'il veut aller en boxe? Est-ce qu'il veut aller affronter Jake Paul? Probablement qu'il le ferait s'il le pouvait, s'il était libéré par l'UFC. Mais est-ce que ça va marcher, ces petites tactiques de négo de Nate Diaz? Je pense pas que l'UFC va...
Je sais pas, il y a un autre tweet qui est sorti, puis tu sais, on lui avait demandé qu'est-ce que tu penses de Jake Paul, des choses comme ça. Il a dit I have other shit to do. Okay, il avait l'air à dire j'ai d'autres choses à faire que ça. Okay. C'est pas la première fois que Nate Diaz demande d'être libéré par l'UFC, je pense à la troisième, quatrième fois dans la dernière année et demie. Fait tu sais, il essaie de provoquer des affaires. Je pense que l'UFC trouve qu'il coûte très cher présentement. Mais tu sais, Nate Diaz va toujours, les frères Diaz vont toujours déplacer, faire déplacer des foules, vont toujours vendre des télés à la carte. C'est sont comme ça, tu sais, ils bougent l'aiguille, eux autres. C'est ça. Il y a beaucoup des combattants comme ça.
Non, c'est un peu tricky parce que le gars peut pas aspirer à une ceinture. C'est un combattant vedette, comme tu dis, il va faire bouger l'aiguille, mais tu peux pas, tu sais, ils ont déjà créé une fausse ceinture quand ils l'ont mis contre Masvidal, ça a vendu. Leur gars-là, mais tu peux pas faire ça toutes les fois, donc il est un peu dans un no man's land. Il va pas accepter un nom, un up-and-comer, là, un prospect dangereux. Il faut que tu le mettes contre un autre vétéran. Là, est-ce que tu peux mettre ça en finale, un gars? En tout cas, bref, c'est un peu difficile. Puis il va coûter ultra cher, donc c'est un peu difficile pour l'UFC, ou c'est un peu, c'est ça, c'est un dossier épineux, là, en fait. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec Nate Diaz? Il est payant d'un côté, mais il coûte très cher de l'autre. Il faut juste le placer contre la bonne personne au bon moment. Merad Valijvili contre José Aldo, ça va être intéressant. Ça a été confirmé, sauf erreur, le 20 août prochain, UFC 278. Aldo qui espérait avoir un combat de championnat. Finalement, on va plutôt du côté de Aljamain Sterling contre TJ Dillashaw à l'UFC 279. Ça, c'est pas confirmé, mais ce serait le plan A de l'UFC. Donc, ça laissait un peu Aldo sans combat à court terme. Donc, chapeau, parce qu'il accepte Valijvili, qui est pas loin derrière lui, qui est sur toute une séquence, et ça va... Le lutteur de Valijvili, qui est dur à finir, qui a énormément de cœur au ventre, va donner beaucoup de fil à retordre à Aldo, en tout cas, sur papier. Chapeau à Aldo d'avoir accepté ce défi-là.
Ouais, je sais pas, moi, j'ai pas beaucoup de parti pris dans la vie, là, mais José Aldo, je vais voter contre lui. Pour moi, c'est un pionnier, c'est une légende, c'est un combattant qui m'a beaucoup inspiré. Puis, écoute, c'est sûr que Valijvili a toute une chance d'aller mettre un gros nom sur sa liste de victoires. C'est sûr que je pense pas qu'il pourra vraiment échanger debout avec José Aldo. Ça dépend toujours, tu sais, José Aldo, lequel qui va se présenter. T'sais, il en reste moins qu'il en restait, José Aldo, même si on pense qu'il est beaucoup plus vieux qu'il l'est réellement. Mais il reste que, écoute, c'est une légende, puis j'ai bien hâte de voir ça. Puis tu parlais d'Aljamain Sterling tantôt, hein, puis TJ Dillashaw, ce combat-là n'a pas été confirmé encore, parce que Sterling a sorti, je pense, hier, et a dit, pour me battre contre TJ Dillashaw, il va falloir que j'aille une raise sur ma paye, parce qu'il dit, ce gars-là, il a triché. Ce gars-là s'est fait prendre pour des stéroïdes, puis vous leur donnez encore un autre combat de championnat du monde tout de suite, clairement. Il dit, je vaux plus que ça. Fait qu'on va voir ce qui va arriver, mais ça n'a pas été confirmé.
Non, exact. Puis Sterling, il a le beau jeu. Il est champion. Il a le beau jeu d'essayer d'augmenter ses conditions, mais ce n'est pas un des préférés nécessairement de l'organisation. Hein.
Ce n'est pas un des préférés de personne.
La foule non plus, les partisans, c'est vrai.
La foule non plus. Tout ce qui est arrivé l'année passée, ça, il a pris une éternité avant de défendre son titre. Par exemple, quand il l'a défendu, il l'a gagné pour vrai son titre. Là,
voilà.
Je veux dire, il a donné une belle. Il avait vraiment bien fait. Là, on peut dire que c'est vrai qu'il est champion. Mais, il y en a tout le temps un dans tous les champions. C'est comme le mal-aimé des champions. Puis je pense que là, présentement, dans l'ère d'aujourd'hui, c'est Aljamain Sterling.
Je suis d'accord avec toi. Donc, à suivre contre qui va. Est-ce qu'il va défendre son titre contre TJ Dillashaw? Combien il va être payé? Est-ce qu'il va avoir ce qu'il veut, Aljamain Sterling?
Parce que, tu sais, honnêtement, là, tu mets TJ Dillashaw contre Sterling. Tu sais, le monde va acheter le combat plus pour voir TJ Dillashaw que Sterling, même si c'est le champion.
Oh, je suis d'accord.
C'est mon opinion.
Je suis même pas sûr que tu peux mettre ça en finale d'un pay-per-view. Si on prend l'exemple du prochain, c'est Cannonier contre Adesanya en finale, puis on met un combat incroyable entre Volkanovski et Holloway en demi-finale. Je veux dire, rendu
c'est, là, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai ce que j'allais dire. Fait que si tu fais les comparaisons, on est loin d'un Sterling de Dillashaw en finale d'un pay-per-view.
C'est ça, exactement. En terminant, je veux t'entendre sur. Et je vais reprendre l'expression d'un journaliste que j'ai vu sur Twitter, la retraite de Zabit Magomed Sheripov, un des plus gros what if de l'histoire des arts martiaux mixtes. Qu'est-ce qui aurait pu arriver si ce gars-là était resté en santé, si ce gars-là avait été motivé, si ce gars-là avait pu se battre sur une base régulière? Il y avait tellement un style unique, un coffre à outils unique également. Malheureusement, pas capable d'être dans l'octogone sur une base régulière, mais on lui souhaite la meilleure des chances. Là, apparemment, il n'y avait plus vraiment d'intérêt pour le sport. Il voulait se diriger vers des études en médecine. Mais donc, confirmer retraite de Zabit Magomed Sheripov, c'est tout un combattant dans l'octogone. Là.
Ah, c'est sûr, pour les sports, pour l'UFC, c'est une perte. Là. C'est un gars qui était tellement unique. C'est un gars qui était vraiment skilled. Honnêtement, là, il était bon partout. C'était très créatif. Il a un style vraiment différent des autres aussi au sol. C'est un gars qui avait son propre style. Écoute, c'est comme ça. Puis, tu sais, le gars, il est tombé malade. Après ça, il avait beaucoup de difficultés à trouver des combats. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu vives aussi. Tu sais, ce gars-là, il méritait d'avoir des gros combats rapidement avec tout ce qu'il avait fait puis toute la médiatisation qu'il y avait autour de lui. Finalement, je pense que c'est juste tanné. Tu sais, c'est tanné. À un moment donné, je regarde, ça marche pas. Ça va faire des études en médecine. Puis, comme tu dis, là, on lui souhaite la meilleure des chances, mais c'est vraiment dommage. C'est le what if, là, c'est exactement ça.
Mais ce que les gens, Pat, réalisent pas, puis tu pourras commenter là-dessus, puis témoigner, en fait, c'est que c'est une vie qui est difficile, la vie de combattant. Tu sais, les gens voient juste les combattants une, deux, trois fois par année dans l'octogone. Mais tous les sacrifices que tu dois faire durant l'année au complet. Pour l'entraînement, c'est ultra difficile sur le corps également. Et là, rajoute à ça le fait que bon, t'es blessé, tu peux pas nécessairement aller te battre. Que lorsque t'es prêt à te battre, t'as pas les combats que tu veux parce que ben, les gens ont peur de toi, entre guillemets, ou essaient de t'éviter. C'est une vie tough, là, la vie de fighter. Hein?
Ben oui, je veux dire, c'est un don corporel que tu fais à ta job, tu sais, dire, c'est ça. Il y a les blessures, il y a dépendamment de ta vie sociale, tu sais, ça va venir, faut que tu te coupes de ça quand tu veux te préparer pour un combat. Les camps d'entraînement, c'est très, très difficile. Tu essaies de t'entraîner plus fort que le combat est supposé être. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures qui se passent dans les entraînements et moins dans un vrai combat parce que tu pousses tellement la machine, la nutrition, la coupe de poids, tu sais, tout, tu sais, c'est pas. Puis là, je n'essaie pas de faire pleurer personne. Je veux dire, personne qui t'oblige à monter dans l'octogone, c'est un choix personnel. Mais si tu m'en parlais, c'est pas un job qui est facile. C'est pas comme. Puis je dénigre pas d'autres sports, mais c'est pas comme un sport d'équipe que tu peux te fier sur des coéquipiers si ça va pas bien une soirée. Tu sais, t'es tout seul. Tu te bats deux fois, grosse année, trois fois par année. La majorité, c'est ça. Fait que ton retour sur du gain sur le temps que tu as mis en entraînement n'est pas si grand que ça quand tu te bats dans deux combats par année et que tu n'es pas une super grande vedette. Fait que, tu sais, c'est pas une vie qui est facile quand tu es un combattant normal, même dans l'UFC. Tu sais, même juste joindre les deux bouts monétairement, c'est pas évident. puis regarde, c'est ça qui est ça. Puis tu sais, t'as juste tout le temps, tu sais, tu joues au hockey, tu joues à boxe, pas à boxe, tu joues au hockey, tu joues au baseball, mais tu joues pas à bat. Tu sais, c'est pas la même chose.
Ben de là, en fait, le point où c'est un peu comprenable qu'il est rendu à un certain âge, rendu à un certain point dans sa vie, ben, il était rendu à faire autre chose. C'est ça. Et délaisser un peu ce mode de vie. Pas délaisser complètement. Je suis sûr que ce gars-là va continuer à s'entraîner. Tout ça. Tu ne tournes pas la switch à up du jour au lendemain, mais juste plus gagner ta vie avec ça. Puis être obligé de faire autant de sacrifices. Donc, voilà où en était Zabit Magomedcheripov qui a annoncé officiellement sa retraite cette semaine. Pat, merci énormément encore une fois d'avoir passé à peu près une heure en ma compagnie. Toujours très intéressant et très éclairant. On espère que vous avez apprécié à la maison. On t'écoute samedi, Pat.
Oui. Merci.
RDS2, 20h. Merci énormément. Merci à vous à la maison et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Au revoir.
Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas.
And now introducing his opponent.
C'est terminé! Victoire de Patrick Côté!
Merci beaucoup tout le monde au Québec!